quelqu'un lui dit. À voir comme ça, mais ça marche, alors. L'enfant lui dit, quoi ? Mystère. L'enfant lui dit, donc, il peut avoir le même mystère ailleurs que dans le cerveau. Pourquoi pas ? L'enfant lui dit, pourquoi pas ? Bien. Je reviendrai quand Pontois pourra parler. L'enfant regarde la boîte. Riquin lui dit, c'est simple. Dans la boîte, il y a des morceaux de cerveau mis sur une plaque ultra sensible. Les morceaux sont bombardés en permanence de rayons laser et d'électricité. La plaque où ils sont déposés détecte les moindres réactions, les fluides du cerveau, les réactions nerveuses si vous voulez. Et elles envoient les informations aux ordinateurs qui essaient de déchiffrer leurs réactions. Dès que ces cellules nerveuses seront en état, nous leur enverrons aussi des informations par l'ordinateur, des informations codées aux cellules nerveuses. Ces cellules recevront les informations par l'intermédiaire de la plaque, etc. Vous voyez, c'est très simple. Et Danfort quitte le laboratoire. Tant que Galien est à Lyon, Guillaume broie du noir. Il se trouve seul, passe son temps à se droguer, enfermé chez lui. Il se sent affreusement seul et ne voit aucune porte de salut à sa vie triste et morne. Même sa mère ne peut l'aider. Et puis, un jour, dans son appartement, rempli de fumée, sale, il ne mange presque pas, ou se nourrit de gâteaux secs et de chocolat, buvant de la bière, passant son temps à fumer. Il a un moment de grand cafard, ou de lucidité. Regarde autour de lui. Cela le dégoûte. Et décide de sortir. Il est sale, maigre, très maigre. Ses vêtements sont très sales, mais il veut sortir. Le bruit de la rue, la lumière du jour lui fait mal. Il marche au hasard, les jambes tremblantes, ne sachant pas où il va. Au bout d'un moment, il a comme un vertige et panique. Il aimerait s'en retourner, aller dans un endroit tranquille. Mais comment faire pour entrer chez lui? Cette lumière qui l'éblouit, le bruit, tout ça le met en panique. Tout à coup, il voit l'immeuble de Galien. Il décide d'y rentrer. Il y est rentré comme dans un asile. Sa planche de salut. Il monte à l'étage du bureau. La secrétaire lui demande : Vous désirez, monsieur ? J'aimerais parler à monsieur Galien Diap. Il est absent. Je peux attendre ? Il est en voyage et ne rentrera qu'à la fin de la semaine. Bon, ça va, j'ai compris. Et il s'en retourne excité. Il se dit, est en voyage, mon œil. Une fois dehors, il a le vertige, manque de tomber. Il marche droit devant lui, sans savoir. Il sent d'un coup, un coup violent contre lui et quelque chose qui le pousse violemment. Il tombe, cogne, rouge, blanc, bleu, blanc et c'est le noir. Plus de bruit, rien. Tout à coup, une voiture l'a pris sur le côté, l'a fait tomber et ne s'est pas relevée. Antoinette de Fleury est chez elle à lire dans son salon le livre Le Lys de la Vallée de Balzac, un livre qu'elle adore. Le téléphone sonne. Elle se lève pour répondre.
Allô ? Oui. Vous êtes Madame de Fleury ? Oui. Vous avez bien un fils, Guillaume de Fleury ? Oui. Votre fils a eu un accident. Il est à l'hôpital de... Pouvez-vous venir ? Oh, mon fils ! Il est aux urgences, madame.
Bien, j'arrive.
Vite. Elle sort du salon. Prend son sac. Et sort de l'appartement.
Une fois dehors, elle appelle un taxi qui s'arrête. Elle entre, elle dit au conducteur l'adresse, elle donne au conducteur l'adresse de l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle demande à l'accueil « Les urgences, s'il vous plaît, la porte à droite, devant vous. » Elle y va. Elle voit des gens hagards, couchés, des infirmières, des docteurs qui vont, viennent. Elle ne voit pas son fils. Elle demande à une infirmière, « Pardon, où est mon fils ?»« Qui est votre fils, madame ?»« De Flory, Guillaume. Je vais voir. » Elle s'éloigne. Puis, elle revient vers la mer. « Veuillez me suivre, madame. »
Elle la suit. Entrez, madame. Elle fait entrer dans un bureau où se trouve un médecin, grand, mince, jeune, en blouse blanche. Madame, asseyez-vous. Elle va s'asseoir.
Il lui dit, votre fils a été renversé par une voiture sur la voie publique, place de l'Étoile. Il a tout de suite été amené ici. Malheureusement, pour vous, il était déjà mort, mort sur le coup. À la tête vide, se sent paralysé, le médecin lui dit, je suis navré de vous annoncer une nouvelle pareille. Elle reste sans bouger. Le médecin lui dit, et dans une chambre. Vous voulez le voir ? Elle se lève et lui dit, « Oui. »
Le médecin se lève. Veuillez me suivre, madame. Sorte du bureau. Il la conduit dans un dédale de couloir.
Il est là, allongé, semble dormir. Il a les traits détendus, a l'air heureux. Le médecin lui dit « Le corps n'a pas été endommagé, juste un bleu à la tempe que nous avons caché avec ses cheveux. » Elle s'approche et lui donne un baiser sur la joue. Sa peau est encore douce, presque aussi douce que lorsqu'il était un bébé. Comment peut-on croire qu'il est mort ? C'est si rapide. Et ce corps si normal.
Lors, elle va s'asseoir sur une chaise qui se trouve près du lit.
Le médecin lui dit « Vous voulez rester un moment ici ?» Elle ne répond pas. Le médecin lui dit « Je vais vous laisser. Toutes mes condoléances. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler une infirmière. N'oubliez pas, en partant, c'est d'aller à l'accueil pour les papiers. J'espère c'est que vous avez vos papiers de sécurité sociale. Merci. »
Et le médecin s'éloigne, soulagé, sans savoir si elle a vraiment compris.
Elle reste là, assise. Elle a un grand vide en elle. Oui, un grand vide. Elle ne pleure pas, ne pense pas. Le choc est si grand qu'il n'y a que le vide. Ce vide qui rend digne et que certains penseraient qu'elle est sèche de corps. Non, c'est parce que le corps est trop plein qu'il faut le vide lorsque la chose est trop forte pour être acceptée. Elle est comme son fils, morte, en esprit et de corps. Elle ne ressent rien. Voit sans penser son fils allongé, qui ne bouge pas, qui est si beau. Elle ne pense à rien. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle est près de son fils. Elle n'entend plus le bruit de l'hôpital. Rien. Combien de temps reste-t-elle assise ? Elle ne le sait.
On frappe à la porte. Elle n'a pas entendu. La porte s'est ouverte.
On lui tapote le bras. « Madame !»
Elle lève la tête et voit une infirmière. « Madame, il ne faut pas rester ici. Venez. » On l'aide à se soulever. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. On l'amène. Voilà.
On l'arrête devant une banque. Une femme en blouse blanche lui dit
« Ah, vous voilà, il était temps, j'allais partir. Vous allez me donner les papiers de votre fils pour que je le fasse déclarer. »
Elle ne comprend pas.
L'infirmière se penche et lui dit « Alors, vous me les donnez ?»
Elle voit tout tourner et tombe.
Le trou noir.
Mais elle entend « Merde, la vieille qui vient de tomber dans les pommes. Et moi aussi qui suis pressée ce soir. Je dois faire les courses avec Armand au supermarché. Vite, Yvette, aide-moi à la mettre sur une chaise. »
Elle se sent soulevée, déposée sur une chaise. On lui tapote les joues. Elle ouvre les yeux. Des visages de femmes sur elle.
Vous allez mieux ? Vous allez mieux ? Vous allez mieux ? Vous allez mieux ?
On lui donne un sucre.
Tenez.
Elle le mange.
La blonde lui dit :
lorsque vous irez mieux, vous rentrerez chez vous. Pour les papiers, vous reviendrez demain. Moi, ce soir, j'ai plus le temps. Allez, à demain.
Elle se retrouve seule sur une chaise. La tête se tourne un peu. Puis, essaie de se lever. Se lève.
Fais un pas. Puis deux. Et marche. Deux droit devant elle.
Elle se retrouve, sans savoir comment, dehors. Il fait nuit, elle a un peu froid. Sa tête est toujours aussi vide. Elle fait quelques pas, va vers un taxi, entre dedans et donne son adresse.
Elle sonne à son appartement.
La porte s'ouvre. C'est le domestique.
Bonjour, madame.
Elle entre. Il lui demande :
madame va bien ?
Le repas est prêt. Elle ne répond pas.
Elle va dans sa chambre. Pour s'allonger. S'allonge tout habillé.
Il se dit que personne ne le sait. Il sent malgré elle que tant que personne ne le sait, il est encore un peu en vie. Cela lui fait du bien de savoir que tout le monde pense qu'il est vivant. Elle aimerait dormir, mais ne le peut. Le lendemain matin,
elle se lève. Met sa robe de chambre. Sort de la chambre. Le domestique la voit et lui dit « Préparez-moi mon café, je dois sortir ce matin. » « Bien, madame. » Elle va dans la salle à manger.
Après avoir pris son petit déjeuner, elle se souvient qu'elle doit prendre les papiers pour l'hôpital.
Elle va les chercher dans son secrétaire qui se trouve au salon. Elle ouvre le secrétaire et cherche dans les papiers. Elle trouve des tas de choses, sauf le papier de la sécurité sociale de son fils. Elle va sonner le domestique. On frappe à la porte. Il entre.
Vous savez où se trouve la carte de sécurité sociale de mon fils ?
Je ne sais pas, madame.
Elle lui dit : C'est très important. J'en ai besoin pour l'hôpital.
Votre fils est malade ?
Non, il est décédé hier après-midi.
Je suis navré, madame.
Elle lui dit : Vous savez où se trouve cette satanée carte ?
Non, madame, mais je vais voir. Attendez.
Il va vers le secrétaire. Cherche. Oh, voilà, madame. J'ai trouvé.
Merci. Bien, je vais de suite à l'hôpital.
Vous voulez que j'aille avec vous ?
Elle lui dit. Il n'y a rien à faire. Ce qui reste, je peux le faire, seul. Merci. Appelez-moi un taxi.
Bien, madame.
Galien, à son retour de Lyon, va sonner chez Guillaume. Il veut savoir où il en est. Il attend, pas de réponse. Sonne encore. Attend. puis s'en retourne. Il y va plusieurs fois, toujours absent. Et il se dit qu'il a dû partir quelque part. Et un matin, en lisant le journal, il apprend qu'il a décédé d'un accident de la circulation, que les funérailles ont eu lieu hier. Il n'a pas pu le savoir. Il était sur la route. Il n'avait pu lire le journal. Cette nouvelle lui fait l'effet d'une bombe. Pendant que je disais des mensonges sur lui, et moi, il est en train de se faire renverser par une voiture. C'est comme si je l'avais rogné. Oh mon Dieu, pourquoi une pensée comme celle-là ? Vous savez que je l'aime vraiment. Et lui aussi avant. Oh, non, oui, mais c'est moi qui l'ai rogné, élargé et livré au destin. Guillaume, mon pauvre Guillaume, je ne t'ai pas assez aimé, pardonne-moi, je suis coupable. Et Philippe a été le jouet de la Providence pour me faire te rogner. Mon Dieu, je te jure que je t'aimais comme tu le mérites et que je te veux toujours près de moi. Tout à coup, il sent un grand vide. Un grand vide autour de lui. Il ressent vraiment qu'il est mort, car sa chair est en manque de sa chair, de sa chaleur, de ses baisers, de son corps sur lui. C'est insupportable de penser plus jamais qu'il ne l'aura. C'est comme s'il n'avait plus de corps, vidé. Il reste ainsi pendant des heures, sans réfléchir, dans ce vide et ce besoin de l'autre qui n'est plus. Comme ça, puis le désir de le retrouver est très fort. À force de penser à Guillaume, à son corps, sa peau, son corps le désire de plus en plus. Et puis, il le fait revivre. Ses sens le font revivre. C'est plus en plus intense. Il se sent un désir si fort qu'il est obligé, tellement son besoin est surhumain, de se masturber. Il le fait assis à son bureau en se déculottant. En pensant à Guillaume, et il le fait revivre comme ça. Il le revoit, ressent son corps sur sa peau,
avec lui, sa chaleur, son vertige. Guillaume recréé, il est vraiment revivant pour son sexe. Il a l'impression qu'il vit pour lui.
Puis, après avoir nettoyé et rangé, il se sent vidé, mais mieux. Le souvenir, par le désir, par le sexe, a fait revivre son ami. Il est triste, mais conscient. Tout à coup, il pense à cette mère, à la mère de Guillaume, cette pauvre femme qui doit souffrir de la mort de son enfant, qui, elle, n'a pas le pouvoir de le faire revivre comme son amant. Elle doit être dans un désespoir terrible, surtout qu'ils étaient fâchés. Elle doit être pleine de remords, la pauvre femme, seule, sans mari, sans autres enfants. Il a une grande pitié pour elle et a envie d'aller la voir.
Il sort de son bureau.
Vous sortez, monsieur ?
Oui. Vous ne m'avez pas dit ? Vous ne m'avez pas annoncé la mort de Guillaume de Flory.
L'enfant lui dit, c'était pour vous éviter du chagrin. Et puis, je savais que vous alliez le voir. Je n'aime pas annoncer des nouvelles comme celle-là.
Kélia lui dit, je vais voir la mère, puisque par votre faute, je n'ai pu aller à l'enterrement.
L'enfant lui dit, est-ce vraiment nécessaire?
Oui, pourquoi?
Il vaudrait peut-être mieux pour votre réputation que vous oubliez cette histoire.
Comment cela?
Oui, vous êtes célibataire, ça fait jaser.
Galien ouvre ses épaules et lui dit,
eh bien, faites jaser.
Et il sort.
Une fois dehors, il entre dans sa voiture et donne l'adresse au chauffeur pour aller chez Madame de Flory.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.